Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Je m'appelle Éric Defao, j'ai 63 ans, né en 1953 et je suis à l'origine de Radio Basse-Meuse.
Est-ce que vous êtes nostalgique de l'époque des radios libres ?
Oui, tout à fait. Je dois dire que dans ma vie, si je ne l'avais pas, j'avais pas travaillé en radio libre pendant 6-7 ans, je pense qu'il m'aurait, enfin, il me manquerait quelque chose dans ma vie.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer une radio ? Quel a été un peu l'élément déclencheur ? Est-ce qu'il y avait aussi une démarche politique dans cette volonté de créer une radio ?
Non, en fait, moi, j'ai pris le train en marche. Je suis arrivé à Radio Basse-Meuse au tout début de sa création, tout à fait bêtement. J'avais un de mes collègues de travail qui animait le dimanche après-midi. Et comme moi, j'étais disc-jockey, en plus de mon travail les week-ends en discothèque, j'avais toujours des importations américaines avec moi. Et un jour, il part en vacances. Et il me dit, oh, écoute, Eric, il faut que je trouve un remplacement. Parce qu'à l'époque, quand on partait en vacances ou qu'on ne pouvait pas faire une émission, il fallait trouver un remplaçant. Donc, mon ancien collègue me dit, bah, écoute, il faudra que tu me remplaces. Ouais, moi, je n'avais jamais parlé devant un micro. J'étais mal à l'aise devant ça. Je me dis, bon, OK, ça va. Donc, un dimanche, je suis allé avec mes disques, puisque la musique, c'était la même, puisqu'il passait mes disques. Mais alors, le pire, c'était d'ouvrir le curseur pour parler dans le micro. Surtout que, déjà à l'époque, RBM était la plus grande radio de Liège. Donc, je prends un générique qui faisait 7 minutes de long. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et arrivé au terme des 7 minutes, je tremblotais. Et j'ai quand même ouvert le curseur pour vite enchaîner avec le disque qui suivait. Et puis, ça a commencé. Puis alors, après, bon, ça va. On a l'habitude. Et c'est le premier lever de curseur qui est le plus difficile. Après, c'est comme la natation. Une fois qu'on sait nager, c'est pour le restant de ses jours.
Ou le vélo aussi.
Ou le vélo, voilà, exactement.
En quoi est-ce qu'RBM se démarquait des autres radios ? Comment ça se fait que cette radio est devenue assez vite la première radio liégeoise ?
Je crois que par rapport aux autres radios, il y avait des tests d'animateurs. Donc il fallait, bon, on est à Liège, on sait qu'à Liège, il y a un accent qui est, je ne dirais pas l'accent méridional de la Belgique, mais quand même, qui est quand même assez prononcé. Donc on essayait déjà d'effacer l'accent. On ne voulait pas de dédicace, on voulait une radio d'humeur et une radio proche des gens. Et comme nous étions situés vraiment dans le piétonnier au centre-ville, ben voilà, tout ça a fait qu'on est devenu très vite leader sur le marché liégeois.
Est-ce que dès le départ, Radio Basse-Meuse a été proche du DRIB, qui était la Fédération des radios commerciales, ou est-ce qu'elle s'est un peu cherchée par rapport à ça ? Est-ce qu'elle aurait pu, au départ, être membre de l'ALO aussi ou...
Non, parce que c'était nettement... Non, on ne pouvait pas être membre de l'ALO. Ce qu'on voulait vraiment, une finalité en soi, c'était devenir une radio qui puisse faire vivre ses animateurs. Donc, il n'y avait pas 36 solutions, c'était la publicité. Donc, nous, au départ, ben, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait des animations de... des balles, dont notamment je me souviens le bal du droit des étudiants de l'université. Il y avait plusieurs balles qu'on animait qui venaient pour des associations telles que voilà, l'université, ça pouvait être des grandes écoles, etc. Là, c'était aussi des rentrées d'argent. On faisait aussi des braderies qu'on animait. C'était pour essayer de faire rentrer. Et on était tous bénévoles. Donc tous les animateurs, bah, on rentrait l'argent. C'était pour acheter du matériel, pour s'améliorer. Donc on avait tous le même but, avoir une belle et bonne radio et surtout un confort d'écoute.
Et l'espoir d'être payé aussi.
Et l'espoir d'être payé, bien entendu, parce qu'il y en a qui ont quand même bien percé dans notre radio. C'était comme un creusot de entre guillemets, vedettes francophones belges. Il y en a quand même qui ont percé dans la radio RBM FM 56.
On le sait, et à Bruxelles principalement, il y a eu une guerre des ondes entre radios, point de vue puissance, mais aussi point de vue philosophie, puisque à Bruxelles, plusieurs radios de l'ALO ont entamé des actions de brouillage contre les radios du DRIB. Est-ce qu'il y a eu une guerre des ondes à Liège et comment ça s'est passé ?
Guerre des ondes, à proprement parler, non. Ce qu'il y avait, c'était des guéguerres, des concurrences. Tout le monde se disait, ah, je suis la meilleure. Il y a eu des études qui ont été faites. Bon, bah, on était toujours en tête. Donc forcément, on a fini par bien penser que c'était RBM qui était la meilleure. Il n'y a pas de secret. Et puis les études n'étaient pas non plus faites de manière gratuite. Donc c'était de manière fortuite, pardon. C'était vraiment pour finaliser après le fameux IPB, donc pour pouvoir voir quelles étaient les radios avec qui ils allaient travailler. Donc les guéguerres, il y en avait dans le sens où chacun pouvait ouvrir sa radio à l'époque, dans son arrière-cuisine ou dans une caravane, n'importe où. Donc il n'y avait pas de place pour tout le monde, puisque c'était uniquement les radios libres, c'était du 100 MHz jusqu'au 108. Donc, il n'y avait pas pour avoir
un
cours.
Et même le 104 au début, en fait.
Oui, oui, mais oui, je parle, donc ce qui était autorisé, c'était du 100.
Oui, mais ça
a, du
ça 100. C'était 100, 104.
Oui, 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 puis voilà,
en il s'est porté plus loin, voilà. 108, en fait.
Et puis alors, donc là, forcément, on était embêté par d'autres radios. Et alors, quand on entendait qu'on était brouillé par, je prends ça comme Radio Cacahuète, par exemple, qui mettait de la région de Cherat, et c'était, bon, ben, ils faisaient leur radio, hein, ils avaient sûrement leurs auditeurs aussi, mais ça ne correspondait pas du tout à ce que nous faisions, et ça nous embêtait. Donc, d'où les changements de stratégie. Donc, un bon émetteur, bien puissant, qui venait d'Italie, avec une bonne antenne au bon endroit. Et là, je veux dire platement, mais on emmerdait les autres. Quoi.
Donc, voilà. Et donc, la guerre des ondes n'a été qu'entre radios commerciales, on peut dire. Est-ce qu'il n'y a pas eu de guerre des ondes avec des radios de la LO qui étaient plus dans une autre optique et qui brouillaient les radios commerciales?
Non, ici à Liège, il n'y a pas eu. De souvenance, non, je ne pense pas qu'il y ait eu des guéguerres de radio comme il peut y en avoir eu à Bruxelles.
Est-ce que vous avez vécu une saisie en direct? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passait?
Ah oui, ce cher monsieur Souvenir. Ah, en plus, il était bien, il venait de Bruxelles. Nous, on était au coin de la rue du Pont d'Or et du boulevard de la Souvenir. Donc lui, il arrivait chez lui. On le voyait encore, ce petit monsieur, avec son chapeau et son mégot de cigarette. D'un côté, il montait, nous, on était au deuxième étage. On le voyait arriver avec ses sbires. On se dit, ça y est, c'est encore parti pour un tour de carrousel. Mais oui, mais bien sûr, on ne le voyait jamais avec plaisir, mais bon, lui faisait son travail, il était envoyé par la RTT à l'époque, et voilà. Mais puis alors, nous, ce qui était très, très drôle, c'est qu'on nous saisissait, on laissait les poignées de porte telles quelles, et on rentrait par l'extérieur, par les fenêtres, et on continuait à émettre. Donc,
parce que vous aviez des scellés.
Il y avait les scellés, on ne les bougeait pas, mais on a fait des tas de choses, hein.
Quelles ont été les réactions des autorités politiques liégeoises à l'arrivée de votre radio? Est-ce que les politiciens soutenaient ce genre d'initiative?
Ah ben c'était bien vu, surtout quand ils venaient débattre à la radio. Là, évidemment, c'était... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, on était soutenus. Il y a eu beaucoup, à l'époque, évidemment, de sa splendeur, entre guillemets. C'était Jean-Pierre Graffé qui était de tous les bons coups. Lui, c'était le PSC à l'époque. Ouais. On était très soutenus par lui. Puis par d'autres aussi, ils voyaient quand même l'intérêt. Il ne faut pas se leurrer, à l'heure actuelle, si un politicien ne passe pas à la radio, ne passe pas à la TV, il n'est pas très populaire.
Hein. Quel retour des auditeurs vous aviez par rapport à vos émissions?
Incroyable, incroyable. Je me souviens d'une émission que je faisais, c'était un jour après-midi, à Bedjour, quand je faisais un remplacement. Et j'étais passé dans un grand magasin, j'avais acheté des noix de coco. Donc c'est vraiment, des noix de coco, c'est rien du tout, ça ne coûte rien. Et j'avais fait un concours avec les gens qui venaient gagner des noix de coco. Et pour les gagner, ils devaient parfois prendre le bus. Mais il fallait qu'ils viennent durant l'émission. Mais les gens venaient de Dieu sait où pour chercher des noix de coco. Moi, je trouve ça, bon, on dirait ça maintenant, mais on ne le ferait plus, quoi. Mais à l'époque, oui, les gens se déplaçaient. Une autre anecdote, quand c'était chaque animateur avait son anniversaire, on ne manquait pas de le mentionner à l'antenne. Et il suffisait qu'on le dise pour que les pralines ou les tartes ça, arrivent... dans le studio. Et non, c'était fort agréable, fort agréable. On jouait sa petite vedette, quoi, à l'époque.
Qui étaient un peu les animateurs de Radio Basse-Meuse? C'était des disjockeys, des cibistes?
Oui, c'est un peu tout. Il y avait des cibistes, mais au départ, c'était vraiment des disjockeys. Ça a commencé vraiment comme ça. Je pense qu'on était tous disjockeys, sauf les filles, qui étaient peut-être des groupies des disjockeys, ça je n'en sais plus trop rien, mais il y a 30 ans, donc on oublie. Mais ça a commencé comme ça, oui, c'était vraiment, on était tous des disjockeys, oui. Et tous avec des choix musicaux différents, parce qu'il y avait des disjockeys ambulants, où là c'est les chansons tarte à la crème, enfin c'est pas ce qu'on passait, mais c'est-à-dire que c'est beaucoup plus populaire. En ce qui me concerne, moi je travaillais en club, parce qu'à l'époque c'était des clubs privés, puisque pour avoir de l'alcool, c'était encore, il fallait que ce soit un club privé. Donc moi je ne passais que des imports américains. Donc c'est encore différent, notre style de musique. Et alors tout ce petit monde s'est retrouvé, on a fait un mix, c'était un joli mix, parce qu'il y avait aussi de la chanson française, pas vraiment par des puristes, des gens qui adoraient vraiment ça, et c'était bien fait.
Donc on peut dire que RBM avait vraiment le feeling pour trouver les animateurs?
Oui, 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 et finalement, il y en a quand même pas mal qui ont roulé leur boss ailleurs que sur les radios privées, la petite radio locale que nous étions, il y en a quand même qui sont partis à l'RTBF ou sur RTL.
Dans une radio comme ça, il y a sans doute plein d'anecdotes. Est-ce que vous pouvez nous en raconter l'une ou l'autre qui vous ont touché?
Mais il y en a une qui me revient souvent à l'esprit, parce que quand je le raconte à des amis, on me dit ouais, c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais si, c'est vrai. Je pense que c'est en 82. C'est pas en 82, c'est dans 82-84, je ne me souviens plus exactement la date. James Brown sortait de prison aux États-Unis et il devait se refaire une virginité en Europe avec une série de concerts. Et il refaisait un concert, le premier concert qu'il devait donner, c'était à La Haye, aux Pays-Bas. Et alors, il cherchait une salle pour répéter, pas trop loin des Pays-Bas. Donc, pour eux, le Benelux ne fait qu'un pays. Donc, Liège, La Haye, c'est pas très loin. Donc, ils avaient jeté son dévolu sur Liège et il répétait au cirque, l'ancien cirque d'hiver à Liège. Et il logeait à l'hôtel Ramada, boulevard de la Sauvenière. Et là, boulevard dans cet hôtel, on était retransmis, entre autres, dans les programmes, dans les chambres. Et le gérant de l'hôtel, chaque fois qu'il y avait une vedette ou qu'il y avait des personnalités qui venaient à Liège, il me disait, ah, il y a une telle qui vient. Et quand il y avait moyen d'avoir une interview, on le faisait. Et comme James Brown, on se dit, bon, on n'aura pas une grande pointure pareille. Mais oui, il a accepté, peut-être parce qu'il recommençait sa carrière. Donc, il nous a invités à l'hôtel pour une interview. Et comme ça s'était très bien passé, il nous a dit, voilà, demain ou après, je reprends le train à la gare de Liège-Guimin. Et si vous voulez, venez m'accompagner, on ira prendre un café en terrasse.
La classe.
La classe, tout à fait. Il était là avec sa femme et ses musiciens. Et ça, c'est un souvenir. Je crois que je peux mourir encore dans 100 ans. Ce sera toujours aussi frais dans ma mémoire. Franchement, aller avoir pris un café avec James Brown alors qu'on était un minus, qu'on n'était rien du tout, c'est quelque chose qui ne s'oublie pas. Mais j'ai d'autres anecdotes aussi. Je sais que la firme PolyGram aussi organisait chaque année une Christmas party, donc là où ils faisaient venir tous leurs artistes. Donc je me souviens avoir partagé avec les Gibson Brothers, avec toute la musique disco, avec il y avait Rose Lawrence, il y avait tout un tas de vedettes là, et c'était très chouette ça, c'était vraiment des souvenirs. Mais ça permettait aussi d'avoir rencontré Goldman dans notre studio bien avant qu'il soit connu, et un mec très sympa. On a eu vraiment, non, on a rencontré vraiment les bonnes personnes au bon moment, quoi, comme Dao, etc.
Quand Radio Basse-Meuse a eu ses ennuis judiciaires et qu'a été créé FM 56, est-ce que c'était presque inéductable que ça se crée? Est-ce que ça a créé des tensions au sein de la radio?
Oui, tout à fait. En fait, il y a des animateurs, administrateurs, qui... C'était l'occasion de les mettre à la porte parce qu'ils étaient un peu rétrogrades. Ils restaient, bon, voilà, je ne vais pas citer des noms, mais un peu popote, on reste comme ça, on est petit, il ne faut pas grandir. Hein, alors que nous, on était plus avec du punch, on voulait aller de l'avant. Et alors, ça a permis aussi d'éliminer certains animateurs. On se professionnalisait encore un peu plus, quoi. Donc, on a essayé d'avoir vraiment la crème de la crème qu'on a fini par obtenir puisque... quand FM 56 est né, il y a eu le succès à continuer et puis il a été racheté par Pourquoi Pas. Et puis bon, la suite, voilà, on la connaît.
Vous étiez tous d'accord de vendre la radio en quelque sorte?
Non. Non, parce que bon, quand Pourquoi Pas est arrivé, on était peut-être encore une quarantaine d'animateurs à l'époque. Et ils en ont gardé 8, quoi. Donc, c'est-à-dire que les bandes fonctionnaient la nuit. C'était devenu impersonnel. C'était plus... voilà. Mais ce que je me dis, moi, j'ai connu le début des radios libres. C'était extra, quoi. Sans vouloir jouer aux vieux combattants, mais c'était très agréable d'avoir enfoncé des portes et d'avoir bravé des interdits.
Avec le recul, qu'est-ce que vous auriez fait autrement par rapport à la radio, bien sûr?
Je ne pense pas que j'aurais fait autre chose, non. J'aurais fait exactement la même chose. Frondeur, impertinent, et je pense...
Un peu liégeois, quoi.
Un peu liégeois, oui, tout à fait, oui. Les cheveux près du bonnet, même s'il n'en a plus beaucoup de mon côté. Mais non, c'était une belle expérience avec... Et une belle amitié aussi, parce que 30 ans après, on se revoit toujours. Je suis toujours en contact avec une grande partie. Il y a quelque chose qui s'est vraiment créé à ce niveau, au niveau amitié, parce qu'on a fait quelque chose ensemble. On a enfoncé des portes, on a eu des peines, on a eu des condamnations au niveau judiciaire ensemble. Et ça crée des liens.
On va un peu parler de la radio aujourd'hui. Est-ce que pour vous, la FM des années 80, c'est un peu les web radios aujourd'hui?
Ah oui, quelque part, oui. Parce que c'est vrai qu'une web radio peut faire ça dans son arrière-cuisine ou dans son salon. C'est plus pertinent, je dis, parce que les radios maintenant, les radios privées, parce que bon, faut les appeler comme ça, c'est la même chose. Quoi. Elles sont toutes formatées, c'est la même chose. Bon, avec des programmations parfois quelque peu différentes. Mais il y en a certaines, je me dis, elles ont 10 disques, elles passent les mêmes disques pendant la journée. Quoi. C'est tout le temps la même chose. C'est répétitif, c'est les mêmes jeux, c'est les mêmes... Nous, on inventait, qu'on cherchait des trucs un peu... différents, on cherchait, voilà, je parlais mes histoires de noix de coco, bah les maintenant sur Bel RTL ou RTBF, dit voilà, il y a des noix de coco à gagner, je pense qu'il n'y en aurait pas beaucoup qui verraient les chercher.
Hein. Un de vos proches veut se lancer demain dans la création d'une radio, vous lui dites quoi, est-ce que vous l'encouragez ou est-ce que vous le dissuadez?
Oh non, je le dissuade. Je le dissuade, non, il faudrait, parce qu'il faut avoir les reins solides, il faut avoir d'abord une régie publicitaire qui va avec, il y a toute une étude, il y a une incidence, il y a un cahier des charges, on ne peut pas ouvrir une radio comme ça maintenant, c'est... On va refaire de la radio pirate, alors peut-être qu'à ce moment-là, oui.
Mais voilà. Justement, est-ce que vous avez déjà envisagé de relancer un jour une radio ou de refaire de la radio?
On a déjà parlé avec quelques-uns, si on refaisait ce qu'on faisait avant, mais bon, on l'a fait, je crois que voilà, c'est comme dans tout, hein. Il faut garder les bons souvenirs et puis laisser place aux autres pour le moment.
Quelle est un peu votre vision de la radio aujourd'hui? Comment vous voyez le média? Est-ce qu'il a bien évolué selon vous ou pas du tout?
Disons que oui, évolué, oui. De toute façon, maintenant, on va vers encore au confort d'écoute avec le DAB. Voilà, ça va encore être encore une autre chose au niveau des conforts et au niveau de la multiplication des radios, mais à condition qu'ils ne fassent pas tous la même chose. Quoi. Parce que c'est vrai qu'on entend une radio, c'est la même chose. Bon, voilà, il y a des décrets wallons, il y a une radio par province, il y a quelques radios de quartier. Mais quand j'écoute ici, à Liège, c'est Maximum FM, la radio, mais j'écoute ça ou que j'écoute Radio Contact, pour moi, il n'y a aucune différence. Quoi. C'est la même chose. Il n'y a pas le côté liégeois de cette radio.
On va un peu, pour terminer, parler de nous. Qu'est-ce que vous pensez de notre travail d'archivage?
C'est une bonne chose. C'est ce qui nous a permis de nous rencontrer. Oui, et puis de faire part aussi, je dirais, pour, entre guillemets, pour l'éternité, des stocks de... Enfin, des stocks, oui, je regarde quand même, de papier que j'avais gardé, parce que je suis pas archiviste, mais je suis très conservateur dans tout ce genre de domaine. Donc... qu'il y ait une trace de cette époque qui était une belle époque et une époque d'une certaine insouciance.
Ben, merci beaucoup, en tout cas.
Avec grand plaisir.
Question, en fait. Voilà.